Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur PFM 99.9 pour l'Actualitime, l'émission de débat entre lycéens. Je suis en compagnie de Jeanne.
Salut.
D'Héloïse.
Salut.
Et de Samba.
Salut.
Et moi-même, Arthur, à l'animation. C'est de nouveau exceptionnellement que j'assure par intérim cette émission, mais sachez que c'est avec grand plaisir que j'aurai entré le débat pendant 30 minutes. Alors pour débuter, voici une musique qui devrait vous mettre la puce à l'oreille quant au sujet de la semaine.
Mon père, il est tellement fort qu'il élève ses poulets sans antibio, évidemment. Ma mère, elle est tellement forte que je suis trop content quand elle m'emmène dans ses champs.
Nous vous proposons aujourd'hui d'aborder, vous l'aurez compris, le sujet de l'agriculture et de l'alimentation bio, tous deux étroitement liés. Alors avant de commencer, comme à notre habitude, nous vous proposons un point information qui permettra de donner matière à débattre. Un des enjeux cruciaux est aujourd'hui de trouver des solutions pour basculer dans un système alimentaire durable, sans produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement. Or, cette transformation inclut une réflexion sur nos habitudes alimentaires et pas seulement sur les modes de production ou sur les rendements, avance Christian Schader, chercheur suisse spécialisé dans l'étude du bio. Alors oui, le bio est désormais connu de tous, depuis maintenant plusieurs années, il a été le propos de beaucoup de magazines et de médias, au point que l'on assiste même à un effet de mode. Manger bio serait donc branché. Mais manger bio, qu'est-ce que c'est dans le fond? Beaucoup ne savent pas vraiment qu'est-ce qui fait concrètement qu'un produit est bio, hormis l'étiquette verte ou le label bien visible arboré par les spécialistes en marketing chez les grandes surfaces. Le bio suscite aujourd'hui des problématiques diverses quant à l'éthique et la transparence des producteurs, et parfois des produits sont effectivement bio, mais pas très bio pour la planète car un modèle agricole productiviste est conservé. Quelques chiffres, 7 Français sur 10 achètent bio de manière régulière. Le bio, c'est 118 000 emplois en France, 7,3% des exploitations et 5% des surfaces agricoles utiles. Le label AB est par ailleurs arrivé en 2009. Ce mouvement pour une alimentation biologique part d'une bonne intention, mais malheureusement, celui-ci est souvent plus individualiste que vertueux. Nous allons tout au long de l'émission faire réagir sur cette assertion que j'avance nos chroniqueurs. Voilà, le décor est planté, voici nos problématiques dessinées, maintenant place au débat. Alors rebonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de points que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, je tenterai de ne pas me faire farcer par le temps qui passe. Alors première question que je voudrais vous poser et qui me paraît adaptée pour débuter, mangez-vous bio et êtes-vous un fervent adepte, voire même pratiquant de l'orthorexie, donc obsédé par la qualité de votre alimentation?
Alors moi, je mange bio occasionnellement, enfin, on essaye de manger des produits de saison, on mange des choses qui viennent du marché, mais c'est pas forcément toujours très bio, quoi.
Pareil pour moi, c'est quand on peut, quand il y a des réductions, ce genre de choses. Mais non, c'est, comment dire, pour la conscience, c'est bien parce qu'on se dit que c'est bon pour la planète. Après, c'est vrai qu'il y a sûrement beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. Donc, je pense que ça suffit pas d'acheter du bio, il faut aussi savoir, savoir d'où ça vient. Enfin, je pense qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte.
Bien sûr. Samba ?
Non, moi non plus, je mange... Donc je disais que non, moi non plus, je mangeais pas souvent bio, parce que déjà, je fais internat, du coup, je mange à la cantine tous les jours. Puis même chez moi, mes parents, ils ont pas forcément l'habitude d'acheter du bio, même s'ils achètent au marché, mais des fois, c'est pas spécialement bio.
Bien sûr.
Voilà.
Alors que ce soit au niveau de l'alimentation bio en elle-même, mais aussi au niveau de sa production, quelle est votre vision, votre perception du bio ? C'est une question relativement large.
Bah, moi, je pense que le bio, c'est quand même une bonne initiative. Hein. Il y a peut-être des mauvais côtés, mais en soi, c'est bien de manger bio. Je veux dire, je préfère manger bio que des trucs avec plein d'OGM et qui ne respectent pas forcément les animaux. Quoi.
Je pense que l'opinion publique, c'est moins de pesticides. C'est, comment dire, il y a une réglementation au niveau de l'utilisation de tous les produits qui peuvent être néfastes pour la santé ou l'environnement.
On va en parler très précisément.
Mais ça donne l'impression, du moins, que c'est mieux à la fois pour l'environnement et la planète. Enfin, l'environnement et la santé, pardon. Et du coup, c'est mieux pour tout le monde, on espère.
Samba ?
Ouais, et puis manger bio, c'est aussi bon pour les producteurs, car ils sont mieux rémunérés, que quand ils vendent de la nourriture pas bio, puis c'est également bon pour la santé et pour l'environnement, donc c'est bénéfique.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait commencer par exemple, pour l'agriculture végétale, respecter le cycle des saisons avant toute chose et de renoncer à un modèle agricole productiviste ?
Ah mais je disais au début, moi de toute façon, enfin, on essaye de pas manger de choses qui sont pas de saison. Mmh. Puis le bio, forcément, c'est toujours de saison parce que sinon tu peux pas produire. Donc ouais, je pense que avant.
Alors ça soulève une question. Il y a aussi du bio qui est importé, tu vois.
Ouais. Donc, ouais, du coup c'est bio, mais ça pollue quand même.
Voilà.
C'est pour ça quand je disais tout à l'heure qu'il y a pas que ça qui compte, c'est que pour le fait que ce soit un bio qui vienne d'un autre pays, qu'il soit européen ou non, c'est pas forcément les mêmes réglementations, donc ça peut valoir une agriculture durable.
Effectivement.
Puis après, est-ce que c'est pas mieux de manger quelque chose qui est pas bio mais qui est produit dans son village par des agriculteurs du village, quelque chose qui est bio mais qui vient de l'autre côté du monde.
On parlera de l'éthique et du cahier des charges du bio juste après. Alors maintenant, petite devinette, si je vous dis Monsanto, vous me dites...
Oula, déjà entendu, prêt de la dire ce que c'est.
Je sais pas qui c'est.
C'est une firme, non?
Ouais, une firme.
Il y a eu des scandales avec eux. Hein.
Spécialisés dans les produits phytosanitaires, ouais. On parle particulièrement d'un en ce moment.
Ouais, il y a un scandale, ils ont dû verser de l'argent.
Ah, je sais plus.
Le glyphosate.
Ouais, j'ai entendu.
Alors, ça vous parle, le glyphosate?
Mais oui, il y a eu beaucoup de débats là-dessus.
On parle que de ça en ce moment.
Je rappelle pour nos auditeurs, c'est un désherbant utilisé dans les fermes et qui est actuellement très controversé, notamment avec des risques cancérigènes. Potentiel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce produit, même sans parler des éventuels risques cancérogènes, même si on peut en parler si vous voulez, juste le fait de devoir utiliser un produit donc chimique pour entretenir les terres qui sont cultivées, vous trouvez ça normal?
Le problème, c'est que oui, sur le court terme, ça va permettre d'augmenter la production, d'éviter les maladies, etc. pour les plantes. Mais sur le long terme, comment dire, ça va détruire la biodiversité de la terre et ça va empêcher, comment dire. Si on commence à en utiliser, on devra en utiliser de plus en plus pour contrer le fait qu'on ait détruit la terre, etc. C'est-à-dire que la vie, les vers de terre, tout ça qui permettent une production, un cycle normal au niveau des plantes, ça va plus du tout être le même. Et du coup, on devra en utiliser de plus en plus et ça sera de pire en pire du coup.
Donc toi, tu serais plutôt militante pour la permaculture?
Ah oui, totalement, exactement.
Donc je rappelle la permaculture qui vise à garder l'écosystème naturel qui régénère les terres et laisse la nature opérer.
Par exemple en mixant différentes cultures, par exemple en mettant des lignes d'arbres fruitiers au milieu d'un champ de blé, les différentes plantes vont s'unir et...
Réinsérer une complémentarité des plantes pour pouvoir se protéger.
Jeanne. Puis pendant des centaines et des centaines d'années, on a réussi à créer des plantes et à nourrir toute une population sans des produits chimiques. Donc je ne comprends pas trop pourquoi...
Je pense que c'est à partir
du rendement et tout. Mais bon, je pense qu'on peut trouver des solutions plus naturelles pour remplacer ça, quoi.
J'ai peur que c'est à partir du moment où la population de la planète a commencé à exploser et que...
J'en parle juste après ça.
Qu'il a fallu...
Je pense qu'on peut avoir des solutions naturelles qui...
J'espère.
Parce que sinon, c'est un peu inquiétant. S'il faut mourir de cancer pour pouvoir manger...
C'est triste.
Oui, c'est clair.
Samba ?
Là, je pense que les solutions, elles existent. Mais après, le fait d'utiliser des pesticides, c'est quelque chose qui a tellement été utilisé que beaucoup d'agriculteurs ne savent plus comment faire. Savent plus faire sans, du coup.
Pour revenir en arrière.
Effectivement, la problématique, c'est qu'on leur a mis ce produit en main. On leur a dit que c'était bien. Et en France, d'ailleurs, on a une politique de production intense qui leur a été demandée. Et donc là, effectivement, il y a toute une remise en question autour de ces produits phytosanitaires.
C'est en Inde aussi qu'il y avait eu ça, la révolution verte.
Beaucoup.
Quand il y avait une politique pour que les agriculteurs utilisent des pesticides. Mais il y a eu beaucoup de suicides d'agriculteurs à cause de ça, parce que ça abîmait les terres au lieu de donner un bon rendement.
Oui, puis d'un point de vue humain, il y a l'isolement aussi de la personne qui se trouve confrontée à un dilemme. Et actuellement, on n'aide pas beaucoup les agriculteurs qui souhaitent justement se convertir au bio.
Ouais, et puis maintenant, les agriculteurs qui ont des produits comme ça, c'est dur pour eux de revenir en arrière. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas du jour au lendemain dire « allez, je vais faire du bio enfin, ».
Effectivement, ils sont obligés de sacrifier une partie de leurs revenus et des fois,
c'est déjà compliqué,
l'État
comme
ne participe pas assez à leur transition.
Ouais, carrément.
Et pour revenir sur ce que vous disiez, la production intensive, etc., surtout après la guerre, qu'on a dû relancer l'agriculture et qu'il y a eu plusieurs mesures de prise, comme par exemple supprimer les haies entre les arbres, etc., entre les champs, pardon.
Entre les champs.
Et du coup, ça provoquait beaucoup de problèmes. Quand il pleuvait beaucoup, il y a d'énormes coulées de boue, etc. Voilà. Et c'est toutes ces mesures qui ont petit à petit produit. Provoquer une agriculture intensive qui coûte aujourd'hui parce que la planète, elle en a pris un coup. Et...
Avec une biodiversité qui a été assez atteinte d'ailleurs.
C'est clair.
Alors justement, dans un contexte d'augmentation de la population mondiale qui atteindra selon les prévisions 9 milliards d'habitants en 2050, quelle solution pensez-vous adapter pour nourrir tout ce beau monde? Une agriculture productiviste, donc avec des produits phytosanitaires, ou une agriculture biologique mais qui pourrait risquer de ne pas être à la portée de tout le monde, en raison du coût qui est supérieur aux produits non bio?
Après, le bio c'est cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en produisent. Si tout le monde se met à produire du bio, ça ne va pas être aussi cher qu'avant. Donc,
c'est ce que les agriculteurs ont peur. Ouais. Tous les agriculteurs qui font du bio, Et ils ont terriblement peur que tout le monde s'y mette et que du coup les prix baissent énormément et que ça soit plus du tout, enfin moins rentable pour eux. Et au-delà des solutions que tu as données, Arthur, je sais qu'il y a une chose qu'on doit absolument changer dans, dans notre régime alimentaire, c'est la quantité de viande. Ouais. Parce qu'on n'a pas du tout besoin d'autant de viande.
Comment dire ? Avoir les habitudes de consommation.
Exactement, parce que la viande produit énormément, bah, rien que les vaches, ça produit énormément de gaz à effet de serre.
Et puis même pour produire de la viande, je sais plus, il faut genre 20 fois plus de nourriture pour un kilo de viande que pour un kilo de céréales.
Ou... Par exemple.
Parce nourrir que l'humanité pour voilà. des SVT.
Premier chapitre. Oui, c'est vrai, en plus. Totalement.
Le soja qui peut justement pallier à la nourriture viande animale au niveau des rapports nutritifs. Donc, ouais. Oui, c'est une idée.
Parce que le fait de passer par différentes étapes, on va dire, on doit produire des légumes, enfin des céréales pour ensuite produire les vaches et ensuite nous nourrir. Il y a une étape en trop là-dedans. Enfin, ça coûte déjà cher et ça pollue énormément. Ça, enfin, si on regarde rien qu'au niveau des États-Unis, il y a un énorme pourcentage qui est dédié à la production de viande plutôt qu'à la production directement humaine.
Ferme des vaches, tout ça.
Oui, en Normandie. Ouais. Donc déjà, il faut revoir ça. Et après, oui, comme tu dis, trouver le juste équilibre entre, dans l'utilisation des pesticides.
Samba ?
Ouais, mais je pense que pour cette transition alimentaire, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et puis, est-ce que tout le monde va vouloir le faire, quoi ? Parce que moi, je connais des gens qui sont stupéfaits à l'idée de ne pas manger de viande.
Non, mais après, pas forcément devenir végétarien.
Non, je parle pas de ça.
Manger un peu moins de viande.
Mais même certains, pour réduire la viande, pour certains, c'est dur, quoi.
Ouais.
Et c'est ça le problème. C'est que
après, c'est une façon de vivre.
C'est même plus d'un problème financier ou quoi. C'est devenu culturel. C'est dans les mentalités qu'il faut que ça change maintenant. Donc, ça va être dur, ça.
Bien sûr, les gens étaient habitués à manger. Peut-être pas profusion, mais avoir une grande quantité de nourriture à leur disposition. Et donc, effectivement, c'est une question de changement de mœurs.
Puis ils ne se rendent pas forcément compte qu'il y a ça des répercussions derrière. Je pense qu'ils voient leur assiette et c'est
bien
tout.
Sûr. Ouais. Et ça, c'est vrai que tu soulèves une problématique intéressante qui est même au niveau de la viande. Les supermarchés ne nous montrent ce qu'ils veulent bien nous voir. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'abattage de l'animal, toutes ces choses.
On voit les beaux petits champs.
On a juste une photo avec un beau champ sur le mur et puis une barquette bien emballée, toute carrée, exactement pareil, avec notre steak dedans.
C'est ça. Oui.
C'est clair. Parce qu'il faut... Comment dire ?
Toute une question de marketing.
Il y a des gens qui vont... Par exemple, il y a des gens qui vont dire, c'est mon cas en tout cas, de dire, bah voilà, les chevaux, faut pas qu'on les mette à l'abattoir, la viande de cheval, c'est n'importe quoi et tout. Mmh. Alors que moi, je suis totalement d'accord, mais au fond, c'est pareil pour tous les animaux, parce que
ouais, mais les chevaux, c'est psychologique.
Oui,
moi,
bien
c'est
sûr.
Pareil, tu vois,
c'est... Parce que pour tous les gens qui font de l'équitation, ça se comprend totalement, mais au final, les conditions dans lesquelles l'abattage est fait, c'est les mêmes pour tous les animaux. Donc, même si les chevaux n'ont pas été élevés pour ça et tout, donc ils ont travaillé toute leur vie pour. Donc il y a des gens, je comprends les arguments, mais c'est au niveau des abattoirs en général qu'il faut réguler tout ça en tout cas.
Après c'est une façon de vivre, hein. Enfin, je sais que moi c'est un peu automatique, le midi je prends viande, poisson, enfin...
Voilà. On a notre équilibre alimentaire,
ouais, voilà.
Malheureusement il faut pas que ça continue comme ça en tout cas.
Alors est-ce que la clé ne serait pas pour manger mieux de manger moins ? Ce qui pourrait pallier à la question du coût, question qui était présente dans mon assertion de début d'émission.
Je pense que ça peut être une bonne idée parce que, après, tout dépend, il faut que ce soit adapté à chaque personne. Quelqu'un de très sportif a besoin de manger beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a pris l'habitude de manger beaucoup parce qu'on voit qu'on peut en fait. Et c'est notre corps s'adapter à ça, donc on pense en avoir besoin autant. Mais je pense qu'on est tous capables de réduire un peu notre alimentation, moi la première. Et voilà.
N'est-ce pas ?
Samba ?
Ouais, je pense que ce serait bien, mais. Comme un peu toutes les problématiques ici, ça risque d'être compliqué parce que la population est habituée à manger. Puis même maintenant, il y a des schémas, même je ne sais pas s'il y a ça à votre cantine, mais qui nous indiquent les quantités de viande qu'il faut mettre ou tout
non,
ça.
Non, nous, on n'a pas ça.
Vous n'avez pas ça ?
Nous, ils nous donnent automatiquement.
Alors moi, ce que j'ai vu quand même à la cantine, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont mis une belle affiche comme quoi ils respectaient les saisons. Donc, ils ne mettaient plus la tomate, par exemple, à disposition
en hiver.
Ouais, ils en ont mis plusieurs. Ouais. Donc, je trouvais ça bien comme... comme initiative.
Mais justement, Jeanne, tu disais qu'on nous servait notre assiette directement. Je sais que moi, au collège, on avait l'opportunité de nous servir nous-mêmes. Bon, sauf pour la viande, forcément, c'est des parts individuelles, mais on pouvait choisir la quantité de légumes et de féculents qu'on prenait. Et ça, c'est génial, parce que déjà, ça réduit énormément le gaspillage. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. On produit assez pour nourrir toute la planète, mais on gaspille tellement qu'il y a des gens qui meurent de faim.
Enfin, je ne sais pas si dans tous les lycées français, c'est pareil, mais nous, les quantités qu'ils mettent, moi, je ne mange pas la moitié de ce qu'ils mettent.
C'est clair.
Quoi, donc,
ils nous servent beaucoup. Mais c'est bien, mais ça a beaucoup de gâchis.
J'ai lu une étude pour préparer cette émission qui disait qu'effectivement, faudrait passer pour nous, pour pouvoir nourrir tout le monde, par exemple en 2050 avec 9 milliards d'habitants, il faudrait une agriculture bio et puis adopter un modèle agricole, par exemple la permaculture, mais aussi combattre intensément le gaspillage alimentaire qui est énormissime. J'ai lu le chiffre, ça doit être peut-être au moins 10% dans la production globale qui est jetée, mise à la poubelle. Bon, déjà, on a eu une avancée quand même. Les supermarchés, ils ont arrêté. Ils donnent maintenant aux associations.
Ouais. Donc ça, Il y a beaucoup d'associations qui récupèrent, que ce soit les gueules cassées ou quoi, qui récupèrent les fruits un peu abîmés pour en faire des compotes ou ce genre de choses. Il y a plein de choses qui se font maintenant, mais ça doit être difficile à mettre en route parce que ça prend du temps. C'est vraiment du cas par cas. Ça ne peut pas être aussi intense, on va dire, aussi efficace que les productions normales. Et oui, pour réduire le gaspillage, il faut absolument que... En tout cas, la solution qui a très bien marché dans mon collège, c'est vraiment pour qu'on puisse choisir la quantité d'aliments qu'on prend.
Samba ?
Non, je suis d'accord avec toi. Moi, au collège, c'était ça aussi. Puis, ils mettaient toutes les semaines le tonne de nourriture qui avait été économisée par rapport à l'an dernier. Ça, c'est vraiment bien.
C'est impressionnant. Le changement, il passait de plusieurs dizaines de kilos, voire centaines par jour, à quelques grammes. Ouais. C'était 200 grammes au final, à la fin de la journée. C'est ouf.
Puis comme ça, ça permet aussi aux élèves qui n'aiment pas les féculents, qui montrer de ne pas en prendre, quoi, parce que maintenant, on prend l'assiette qu'ils nous donnent, même si on n'aime pas, puis on jette au final. Ouais.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le bio devrait adapter son cahier des charges aux préoccupations environnementales actuelles ? Donc, je pense, par exemple, aux emballages qui devraient être plus respectueux de l'environnement, parce qu'actuellement, quand on importe du bio parce que les produits bio sont plus fragiles, on a tendance à les emballer avec plus de précautions, donc ça passe par des emballages plastiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait instaurer un cahier des charges pour le bio ?
Ouais, non, mais même pas que pour le bio en général. Enfin, moi, je sais plus, je crois que c'était avant-hier ou il y a une semaine, j'avais vu une émission, c'était des produits qui étaient emballés dans un truc plastique, emballés dans un deuxième truc plastique et dans un truc carton. Enfin, c'est un peu bête, quoi. Tu mets un truc plastique ou un truc carton et ça suffit, quoi.
Surtout si on veut produire bio pour la planète et que derrière on met 4 tonnes de plastique, c'est dommage.
Enfin, c'est pas logique, ça sert à rien, quoi, au final.
Après, non, je pense que, excuse-moi si je te coupe,
non, vas-y.
Je pense qu'il y a une peur aussi des grandes distributions de gâchis, de, par exemple d'infection de la nourriture, tout ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils emballent aussi beaucoup.
Ça soulève aussi une question, c'est est-ce que, à force de vouloir tout le temps être très rigoureux au niveau des procédés de fabrication, donc en instaurant énormément de normes, hein, donc c'est l'Europe, en France, qui instaure beaucoup de choses, est-ce que quelque part, ça ne se retourne pas contre nous, et puis au final, on est un peu de responsable de ça.
En fait, on veut absolument la qualité, ce qui est bien pour la santé, etc. Mais on n'a pas pris les bonnes décisions, parce que ça a des répercussions, comme tu dis. Et c'est vrai que la quantité de plastique est impressionnante, et il n'y a pas que dans les emballages de production bio, en tout cas, il y a partout, il y a du plastique partout. Il faut trouver des solutions pour réduire ça. Il y a des normes qui sont en train d'être prises, là, concernant les cotons-tiges, les pailles, toutes ces choses jetables, c'est bien.
Ouais, c'est bien.
Mais ça ne suffira pas, en tout cas.
Alors, voici la première partie de cette émission d'Actuality Team terminée. On se retrouve tout de suite après une page musicale.
I'm not afraid.
Alors, rebonjour à toutes et à tous pour la deuxième partie de l'actualité. Donc, nous allions parler, enfin, j'allais poser la question de est-ce que le vrac, ça serait pas une solution aussi pour justement pallier à l'utilisation d'emballages qui ne sont pas respectueux de l'environnement ? Est-ce que ça ne serait pas un modèle de consommation qui serait intéressant pour l'avenir ?
Si, c'est bien. Bah, justement, on parlait du plastique et du fait que c'était un peu n'importe quoi. Donc, je pense que le vrac, ça peut être sympa. Enfin, c'est une bonne alternative et c'est pas polluant, enfin, c'est bien.
Alors, oui, pourquoi pas. Du coup, l'idée, j'imagine que, comment dire, c'est que les gens se servent dans des grands...
Des trucs en verre ou, tu sais...
Ouais, voilà, dans des grands récipients. Après, pourquoi pas.
Alors, je crois qu'il y a un magasin qui s'est implanté sur Arras.
Non, alors, il y en a un à Arras. Ouais. Et j'ai vu un truc. Alors, je crois que c'est Carrefour, mais je suis pas sûre. Qui maintenant, parce que tu sais, le vrac, genre à Auchan, t'as
moi,
du vrac.
Moi, je vois, c'est les grands silos.
Ouais,
qu'on
voilà. Descend
avec
sauf
un
que
sachet.
Tu prends avec des sachets en plastique.
Ouais.
Donc,
c'est
complètement débile.
C'est ce que je voulais dire. Sauf prendre le plastique.
Je crois que c'est Carrefour maintenant qui autorise les gens à venir avec leur propre récipient. Ah, donc là, bien. C'est intéressant, tu vois.
Si c'est du papier sinon, ou du carton, ou ce que vous voulez, mais c'est tout sauf du plastique, quoi, s'il vous plaît.
Ouais.
Sympa.
Après, moi aussi, je pense que les emballages, on peut les recycler derrière. Oh. C'est ça.
Ouais, un peu. Ouais, mais ça.
Mais du plastique reste du plastique. Quoi. Du plastique, ça reste du pétrole.
Oui, c'est sûr. Après, on peut toujours arrêter d'en utiliser. Après, le vrac, c'est une bonne
enfin,
idée.
Après, si t'as pas ton sachet en plastique pour prendre tes trucs en vrac, t'es
ou acheter
bien,
le
quoi.
Sachet, le sac à air roulette, là, comme les
grands-mères. Ah, comme les grands-mères.
Mais c'est génial, ça. Non, mais je pense que l'idéal, c'est quand même des sachets en papier, même si c'est plus fragile, ça marche très bien. Après, il y a...
Bien sûr, parce qu'on a beau dire on va continuer à donner des sachets en plastique et puis on va les recycler, ça marche pas tellement.
Ouais,
moi, je pense,
et en plus...
quand je vais au drive avec mes parents, avant ils donnaient des sachets et c'était consigné. Au final, une fois la porte elle s'ouvrait, puis j'ai vu ils mettaient des sachets plastiques dans une benne, puis ils les réutilisaient pas vraiment. Donc certainement qu'ils étaient recyclés. Hein. Et maintenant, ils utilisent vraiment des sachets en papier biodégradable. Et je trouve ça plus intéressant que le
plastique. Ouais. Pour moi, c'est mieux.
Puis
aussi,
j'ai vu un article sur le plastique recyclé. Et en fait, ils ont fait une sorte d'étude où ils ont enfoué. Bah, voilà, on a vu la même. Oui. Ils ont enfoué du plastique qui est recyclable dans le sol, dans l'eau.
Ils ont laissé 2 ans, je crois.
Ouais, 2 ans. Et en fait, ils l'ont ressorti et on pouvait encore se servir du plastique comme ça. Quoi. Donc ça se recyclait pas du tout.
Ils ont mis des courses dedans et le sachet.
Ouais,
c'est la différence entre biodégradable et recyclable.
Ouais, alors il était biodégradable. Donc, il était censé s'autodétruire dans la nature. Et en 2 ans, normalement, c'était bon, quoi.
Après, ça dépend,
et en fait, pas du tout. On pouvait encore s'en servir, quoi.
Hélas. Oui, puis après, une autre solution qui peut être intéressante aussi, alors ça concerne plus le plastique ou quoi, mais c'est le circuit court. Dans mon village, j'ai un distributeur de fruits et légumes. Et en fait, c'est vraiment produit local, c'est dans les villages alentours. Et c'est hyper intéressant. En plus, ça marche super bien parce qu'il y avait déjà un conteneur où il y avait plein de casiers pour plein de fruits et légumes. Et ils ont rajouté quelque chose de produits laitiers. Enfin, il y a vraiment de tout. Et c'est hyper intéressant parce que c'est juste à côté. Et comme c'est local, bah, ça donne encore plus envie d'acheter, quoi.
Ouais, puis moi j'habite à Arras et il y a pareil à Arras, il y a prise directe.
Il y en a de plus en plus. Hein.
Ouais. Moi,
on achète prise directe.
Plein de trucs à prise directe.
Hein.
Ouais, placement de produits.
Oui.
Mais les 3/4 de ce qu'on achète.
Les autres bouchers sont très bien aussi.
Pas les 3/4,
on les respecte. Les primeurs aussi, bien sûr.
Tout le monde, le marché, tout ça.
Petit pub, le marché, le samedi matin sur la place d'Arras.
Ah, ça c'est très bien.
Très bien.
Du coup, voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne solution aussi et c'est encouragé. Production locale et ça évite les nombreuses pollutions causées par le transport. Parce que y a rien qu'à voir tous les camions qui vont sur les autoroutes avec leurs conteneurs derrière. Ça fait peur quand même.
Ouais, je suis d'accord, même à Liéva, il y a le marché couvert où est-ce qu'on peut acheter plein de trucs, même on peut acheter des pâtes là-bas. Donc,
c'est génial, si on peut acheter des pâtes, c'est bon. Ah,
c'est la base.
Les pâtes, c'est la base.
Donc voilà, je pense que c'est mieux. Puis même pour les petits producteurs, vraiment c'est bien quoi. Parce que c'est les grandes distributions, il en faut, mais si on peut aider les petits producteurs, c'est mieux quoi.
C'est clair.
Puis c'est sûr qu'on sait plus d'où ça vient, comment ça a été fait. On est sûr quand même que c'est de la qualité.
Tu peux les vérifier les champs.
Puis il y a cette proximité avec le vendeur.
Puis on sait où va l'argent, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a ?
On sait où va l'argent, parce que dans les grands magasins, grande distribution, bon...
On va en parler juste après, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Samba. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait mettre en place une obligation pour qu'il y ait une proximité entre le lieu de production et le lieu de distribution auprès du consommateur ?
Ça peut être bien. Après, une obligation, je ne sais pas, parce qu'on est quand même dans un monde où on échange beaucoup au niveau commercial.
Et même au niveau européen.
Ouais, voilà, européen ou même avec les autres pays. Donc, faire ça, c'est un peu se renfermer sur nous-mêmes quand même. Donc, je pense qu'il faut l'encourager. Mais il faut quand même avoir des interactions avec les autres pays, parce que sinon, bon...
Ça dépend pour quel produit, c'est sûr, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas produire en France.
Ouais,
donc
voilà.
Il y a un paradoxe qui m'amuse beaucoup, moi, c'est que, par exemple, moi je ne sais plus, j'ai lu un article, et c'était un produit qu'on exportait énormément de la France vers les autres pays, et on en importait énormément.
Mais c'est pareil avec l'avocat, c'est pas le Brésil, je sais plus, il y a un pays d'Afrique du Sud. Ouais, ils en produisaient tellement et on en consommait tellement qu'ils étaient obligés d'en reprendre pour eux, quoi. Mm-hmm. Enfin,
La logique du monde. Mais après, il y a un autre système aussi. Bon, c'est plus trop dans le bio, mais c'est une marque qui en fait a fait énormément de a posé la question à la population quelle prix serait-il capable de mettre dans le lait, dans le jus de pomme, dans tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est les consommateurs qui choisissent le prix. Et ça permet vraiment aux producteurs de mieux gagner leur vie. Par exemple, dans le lait, clairement, ça fait beaucoup de scandales il y a quelques années. Et je trouve ça hyper, hyper intéressant parce que voilà, c'est les producteurs qui nous nourrissent et on les oublie souvent. Rien que dans le nord de la France, il y a énormément de champs et c'est très compliqué pour eux comme métier, que ce soit du point de vue financier ou physique. Donc,
c'est dur, ils sèvent tôt, ils travaillent dur.
Effectivement, Jeanne, tu parlais de la question économique autour du bio et tu disais que ça permet de s'assurer que les exploitants, les producteurs aient une rémunération juste.
Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que... La base quand même de ce qu'on mange, c'est les producteurs. Donc à un moment...
Vous y croyez vraiment qu'il y a une...
Je pense que si c'est des circuits courts, ils sont quand même plus d'argent que quand c'est des longs circuits, quoi. Enfin, c'est sûr.
T'avais commencé une phrase, Arthur.
Ouais.
On y croyait vraiment que...
Effectivement, qu'il y ait une redistribution juste pour les agriculteurs.
Oui, non, justement. C'est le problème, il y a eu... Rien qu'avec le lait, en fait, il y a eu trop de production de lait à un moment, et du coup, il y avait trop de gens qui en faisaient sur le marché, du coup ça baissait le prix. Mais c'est ça, c'est vrai que nous, de notre point de vue, on sait pas. C'est pas le pourcentage qui est attribué aux grandes enseignes, aux producteurs.
Je pense que les grandes enseignes, les producteurs, ils gagnent pas beaucoup avec eux. Mais je pense que quand il n'y a pas d'intermédiaire, forcément ils ont plus d'argent.
Les
coopératives, c'est très bien parce que c'est le même prix pour nous, mais pour eux, vu qu'il n'y a pas les grands distributeurs, ils gagnent beaucoup plus, quoi, donc c'est mieux.
Vous voyez, moi, mon inquiétude, elle est que, effectivement, des petits magasins qui prônent justement cette proximité, donc qui se portent comme le relais des agriculteurs, j'ai peur qu'il y ait un modèle comme dans les grandes surfaces qui vienne s'imposer justement dans ces magasins qui partent d'une bonne intention qui veulent redistribuer une partie de l'argent, le maximum d'argent à l'exploitant. Et j'ai peur que justement, il y ait ce modèle des grandes surfaces qui dépeigne sur ces petits magasins et qu'on se retrouve à nouveau dans un système où le distributeur il prend une marge supérieure au travail, au salaire de l'exploitant. Voilà, ça c'est une de mes inquiétudes. Alors est-ce que vous pensez que l'État a un rôle à jouer et dans le cadre des élections européennes, est-ce que vous pensez que l'Union européenne devrait... Et donc l'État, les deux, devraient agir plus drastiquement en faveur de l'environnement et donc dans la manière de produire.
Mais ça c'est certain, c'est évident. La France est très mauvaise élève dans tout ce qui est environnement, etc. Il y a des pays où les gens peuvent investir dans des éoliennes comme dans une banque et gagner de l'argent là-dessus pour avoir l'électricité propre. Enfin, faut dire à quel point on est en retard, quoi. Et il y a plein de mesures à prendre là-dessus. Rien que dans les paquets de biscuits, l'emballage en carton, des fois, il y a un produit toxique que les producteurs mettent dessus pour qu'il soit blanchi. C'est aucune utilité, mais c'est un produit toxique.
Les bonbons, notamment.
Ouais.
Oui, voilà, il y a partout. Et vos emballages de prince, vous regardez, votre carton, il est blanc. À la base, il est censé être marron. Et il y a plein de détails comme ça qu'on pourrait améliorer. Et voilà, la France ne le fait pas, l'État ne le fait pas. Et Et c'est, comment dire, on sera, enfin, l'État sera clairement, pas que l'État, mais on sera clairement responsable de la dégradation de la planète et bah, de l'extinction de l'espèce humaine à grande échelle, quoi.
De toute façon, je pense qu'au niveau de l'écologie, il y a toujours mieux à faire. Enfin, je veux dire, c'est dur d'arriver à un niveau où, où c'est très très bien, mais on a, enfin, on a encore des progrès à faire et il faudrait les faire assez vite.
Partout,
même,
que ce soit dans l'énergie, dans l'alimentation, dans les animaux.
Quand tu regardes les pays du Nord, enfin... Au niveau où ils en sont par rapport à nous, où on en est.
Ils sont très en avance, effectivement.
Ouais, enfin, ou alors c'est nous qui sommes très en retard.
D'ailleurs, mais justement, c'est, on en parlait dans la dernière émission, c'est la mentalité des Français qui ne veulent pas.
Ouais, on en
parle. Pas généraliser, hein, mais qui ont des difficultés à s'adapter, à adopter un nouveau modèle.
C'est clair, parce qu'à l'époque.
Mais bon, là, c'est, enfin, même si on a des difficultés, à un moment, il faudra peut-être se bouger les fesses parce que ça devient un peu urgent, quoi.
À l'époque où la question de l'énergie se posait, où certains pays ont décidé de choisir l'éolienne ou. Les panneaux solaires pour produire leur énergie. Nous, on a choisi quoi ? On a choisi
centrales nucléaires.
Centrales nucléaires, exactement.
Alors là, par contre, je voudrais nuancer quand même.
Oui, je ne dis pas que c'est que du mauvais, les centrales nucléaires.
Parce que, c'est pas contre toi, hein, mais il y en a beaucoup qui parlent justement que bah, l'éolien, on devrait investir plus dedans.
Ouais, bon, à l'heure actuelle,
je pense qu'il faut quand même un petit peu de cohérence par rapport à nos besoins actuels en électricité. Même l'éolien, avec des parcs immenses, on ne serait pas en capacité de fournir, comme on veut, l'électricité... à la population. Parce que le problème de ces énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, ça dépend du facteur naturel, du vent, de l'ensoleillement. Et on n'a pas actuellement la capacité de mettre en réserve, en batterie, pour redistribuer par exemple, quand il n'y a pas les phénomènes climatiques.
C'est vrai que dépendre de ces phénomènes-là, favorables. C'est compliqué.
Après,
donc pour l'instant, le nucléaire, c'est quand même, à mon sens, la solution la plus adaptée, étant donné en plus que les chercheurs ont... Bon, je ne vais pas faire d'annonce... particulière, mais sont en bonne voie en tout cas pour trouver une solution pour la gestion des déchets nucléaires.
Après, l'éolienne, c'est une durée de vie de combien de temps ?
Alors là, plusieurs dizaines d'années, je pense.
Oui, on avait parlé. Ouais.
Parce que si on investit je là-dedans, il faudrait que ce soit durable aussi.
Voilà, quoi. C'est ça. Je ne sais plus la durée exacte de la durée de vie d'une éolienne, mais elle a dit que c'était tout juste rentable entre l'investissement et par rapport à la durée de vie et puis l'exploitation, enfin le rapport à l'exploitation.
Après, il y a quand même beaucoup d'autres énergies renouvelables qui sont possibles. Quelque chose qui ne dépend pas des phénomènes météorologiques.
Après, il y a l'hydraulique qui marche très bien. Ouais.
Et au-delà de l'hydraulique, il y a les énergies qu'on peut produire grâce à la marée. En ce moment, donc, il y a des chercheurs qui cherchent des éoliennes en fait, pour dans l'eau, en fait. En fonction de la marée. Donc, quand la marée monte, elle tourne dans un sens. Quand la marée descend, elle tourne dans l'autre sens. Mmh. Du coup, bah, ça se produit tout le temps. Il y a juste les grandes marées, voilà, ça change un petit peu. Mais ça, on est sûr, exactement, on est sûr d'en avoir.
Et ça, du coup, ça pose une question de maintenance, de coût et puis de rentabilité.
On est toujours, je ne vais
pas détruire la biodiversité.
Les centrales nucléaires aussi, ça pose une question de maintenance.
Ah, c'est clair, il faut quand même 30 ans pour
arrêter une centrale. C'est sûr, mais on est toujours dans un rapport de rentabilité où la centrale nucléaire.
Bah, je pense qu'il faudrait essayer de faire un mix de tout ce qui est un peu renouvelable pour qu'au final, on ait le même résultat avec tout ça qu'avec des centrales nucléaires. Le problème, c'est qu'il y en aura,
il faut beaucoup plus
d'éoliennes, de stations hydrauliques, tout ça, que de centrales.
Alors, juste pour finir sur cet aspect, on a l'EPR qui est en train d'être développé, qui devrait produire moins de déchets nucléaires et pratiquement le double de la capacité d'une centrale nucléaire classique. Oui. Donc, je voudrais juste finir, parce que là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous croyez aux programmes proposés, notamment donc, les programmes dans le cadre des élections européennes proposés, notamment ceux qui souhaitent agir vite pour l'environnement.
Tout dépend des mesures qu'ils veulent prendre. J'avoue que je ne suis pas trop au courant de ça.
Bah, je pense que l'environnement, il faut agir vite, mais il faut aussi agir sur le long terme. Parce qu'à un moment, si on se précipite, il faut agir tout de suite, il faut faire des choses tout de suite.
Mais justement, au niveau de leur application, vous y croyez vraiment ou vous pensez que c'est des belles promesses ?
Bon, je pense que...
Moi, j'ai envie de dire qu'il faut essayer. Mais enfin, en fait, non, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que si ça foire, ça va être encore pire que mieux, mais... C'est une bonne question. Moi, je veux voir leur programme, simplement.
Après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités avant l'écologie ? Bon, je pense que l'écologie, c'est important.
Oh, c'est quand même bien prioritaire, l'écologie. Ouais.
Ah, si tu veux.
Bah, d'accord. Non, pour moi, c'est la priorité.
Je pense pas du tout.
Ouais. Pour moi, c'est la priorité dans le sens où, bah, sans planète, on n'est rien. Il faut arrêter de croire qu'on est les rois de la planète et qu'on va tout contrôler parce qu'on le veut.
Puis, à un moment, même pour notre économie, je suis désolée, mais là, quand il neige en Corse, en plein milieu du mois de... On est en quel mois, là ? Avril ?
Juin, mai.
Enfin, c'est un peu... Ouais, j'ai du mal, hein, je suis fatiguée.
Tu vois, enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais entre choisir pour, si on regarde du côté social, pour la vie de certaines personnes sur une certaine durée, comment dire, un certain temps, et la vie de ces mêmes personnes, mais sur le long terme, pour toutes les années qui nous restent, Ah, moi, je préfère voir sur le futur et prévoir, prévoir pour la planète, quoi, pour éviter l'extinction de l'espèce humaine, simplement. Voilà. Même si c'est un peu horrible ce que je viens de dire.
Alors, qu'est-ce que vous pensez des régimes alimentaires, si on peut les nommer comme ça? Donc, je parle des végétariens, des végétaliens, des véganes.
Vas-y.
Je pense que ça peut être une bonne idée de ce qu'on disait tout à l'heure, que la production de viande, elle pollue énormément. Après, moi, je sais que je me vois très mal ne plus manger du tout de viande.
Ouais.
Et c'est clair que...
il y a un côté assez astreignant.
Et puis, ça, je pense que ça serait dommage de... du point de vue des végétaliens, donc qui ne mangent pas de tout ce qui vient de la production animale, le lait, le miel, etc. Ça serait dommage de, d'arrêter, comment dire, de ne plus manger ce genre de choses, parce qu'on peut très bien produire du miel, du lait, sans nuire à la, au bien-être des animaux. Donc pour moi, c'est dommage, je trouve, d'arrêter de manger ce genre de choses.
Sympa.
Moi, je pense que c'est bien de réduire. Après, moi, je pense qu'il y a certains cas qui sont extrêmes. Donc tout, c'est de réguler, quoi, derrière.
Moi, je pense que les végétariens ont des belles des convictions, ils les suivent, donc c'est bien. Ils font ce qu'ils pensent et tant mieux. Après, par exemple, les véganes, je suis désolée s'il y a des auditeurs qui sont véganes, mais je trouve ça un peu extrême quand même, quoi. Enfin...
Moi, je peux comprendre, parce que c'est vrai que, par exemple, la production de cuir ou de laine...
Ouais, non, plus... alors je veux bien, mais... Enfin, fou.
Tout dépend, voilà. En fait, ça dépend à chaque fois de la condition dans laquelle
ouais,
c'est
voilà.
Fait tout le temps.
Aussi, le cuir peut-être, mais la laine, enfin, ça dépend comment les moutons sont traités. Mais après, il y a des moutons, ils vivent dans des prés, ils sont très heureux, et enfin, tout va bien, quoi.
Les moutons. Je suis d'accord. Non, mais ça, je pense que ça dépend des convictions de chaque personne. Et que... Après, si elle le vit bien, pourquoi pas. Mais c'est pareil, enfin, l'homme, à la base, il est quand même fait pour manger de la viande. Quoi. Donc, même si on en mange trop par rapport à ce qu'on a besoin.
Ouais, limiter, oui. Arrêter, voilà. Je sais pas.
Exactement. T'as bien résumé ce que je voulais dire.
D'accord. Donc, réguler ses habitudes de consommation. Eh bien, écoutez, je vais clore cette émission de l'actualité. Encore merci de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre débat.
Salut.
Au revoir.